Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, éleveuse de chèvres angora, de brebis limousines et fondatrice de l'atelier Fibrelaine. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Je vous emmène chaque mois dans ma vie paysanne et créative. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Alors, bienvenue dans ce 4e épisode de mon podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, on est le 27 juin 2018 et je vais vous raconter mon mois de juin. Donc, il y aura un segment à la ferme avec plein de choses. Il y aura un segment lecture, un segment atelier fibrelaine, et un segment curiosité où je vais vous parler de la saponification à froid. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît et je vous souhaite une agréable écoute. À la ferme. Alors, ce mois de juin a été assez intéressant. Tout début juin, on a récolté l'ail en fait parce que il pleuvait pas mal et on a eu peur qu'il ne pourrisse avant l'heure. Donc on a arraché l'ail, on a fait des gros ballots qu'on a suspendus dans la serre et on est en train de le faire sécher. Je pense qu'il va être assez joli. Il n'est pas très gros, mais Il a beaucoup de goût. Une autre construction que j'ai fait ce mois-ci, c'est un paralis pour mes chevreaux. Donc en fait j'en ai 3 à biberonner et jusque là je tenais un biberon dans chaque main et un entre mes jambes, mais j'avoue que c'était pas très pratique. Et ils deviennent de plus en plus gros et il y a des gourmands qui profitent de la faiblesse des petits pour voler un petit peu. Et donc comme j'ai pas les mains libres, je peux pas faire la loi entre guillemets. Donc ça faisait un petit moment que je voulais faire ça et puis j'ai essayé de trouver des plans, regarder sur internet. J'avais pas vraiment trouvé de choses intéressantes. Et puis dernièrement sur Pinterest, en fait, j'ai vu une photo d'une dame qui avait fait son bar à lait. Et donc, j'ai dit, bon, allez, je me lance. Donc, j'ai prévu pour 4 biberons. Donc, c'est tout en bois, tout simple. Une planche avec des trous et une autre en guise de support avec des séparations assez larges pour que chacun ait sa place et qu'il n'y ait pas trop que les gros ne volent pas trop aux petits. Donc ça c'était assez rigolo la première utilisation, donc ça sert effectivement de bar à lait, mais ça sert également de gratte-gratte, voilà, pour les adultes qui ne sont plus au biberon, qui n'ont jamais été au biberon, ils ont trouvé l'utilisation parfaite. Alors ce mois-ci j'ai fait un petit voyage dans l'Orne pour aller voir Olivier et Frédéric Turgot qui sont éleveurs de brebis Hampshire. Donc ça fait depuis un moment que je voulais augmenter mon troupeau de moutons et je voulais une race avec des bonnes qualités bouchères, donc pour la viande, mais également des bonnes qualités lainières. Et en me renseignant un petit peu et notamment en lisant le The Fleece and Fiber Sourcebook, j'ai trouvé cette race, donc les Hampshire Don, originaires d'Angleterre. Et j'ai contacté ces gens qui sont très gentils et je leur ai réservé 30 agnelles qui devraient arriver fin août à la ferme. Et donc le 14 juin, j'ai fait l'aller-retour pour aller voir ces moutons. Donc c'était très intéressant, donc on a parlé bien sûr élevage, de leur passion pour ces moutons. Depuis le tout début, il y a 25 ou 30 ans, ils ont commencé avec cette race et ils sont toujours passionnés de cette race. Et Frédéric donc a développé depuis 3 ans, 2 ou 3 ans, sur la ferme un atelier de laine également, donc qui s'appelle l'atelier Pure Laine, Je vous mettrai les liens dans les notes pour cet épisode. Et elle est passionnée de laine, de fibres, et elle fait des très très belles choses avec sa laine. Donc ça, c'était mi-juin. Ça m'a fait du bien parce qu'on était un petit peu dans l'impatience des foins. On attendait d'avoir un créneau pour les foins, et puis il y avait des orages assez régulièrement, donc ça m'a fait une petite sortie parfaite. Et donc 3 jours après, on a enfin eu la possibilité de commencer les foins. Et ça, c'est toujours très excitant parce que c'est la période de l'année où on prépare, disons, toutes les réserves pour l'hiver, les réserves de fourrage. C'est important, et je pense que chaque éleveur essaie de faire au mieux pour offrir le meilleur foin, le meilleur fourrage à ses bêtes. J'avais un peu peur que le foin soit trop avancé, et en fait il y a une prairie qui était un petit peu avancée, mais le foin est encore beau. Et sinon, le reste des prairies que nous avons fauchées, le foin est très joli. Donc on en est à 81 balles rondes, et il faut que j'en fasse encore un petit peu pour arriver à un petit peu plus de 100 bottes de foin, ce qui représente mon stock, la quantité de foin dont j'ai besoin pour l'hiver. Donc c'est un peu un travail d'équipe. Hugo fauche, je pirouette, il andaine, je presse. Donc ça, c'est assez rigolo. On n'a pas vraiment nos tâches disons réparti, mais cette année ça s'est un petit peu organisé comme ça, bien que j'ai fauché une prairie, j'ai dû faucher, pirouetter, andainer, presser, parce qu'il a aussi son travail au maraîchage qui lui prend beaucoup de temps, notamment le désherbage en ce moment, et les récoltes qui prennent de plus en plus de temps parce que les légumes poussent, les courgettes, les concombres, il y avait des petits pois, des haricots verts, donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Et il y a une autre petite aventure qui s'est passée ce mois-ci. Ça faisait un petit moment qu'on attendait, enfin pas tant que ça, 2 mois. Ma chienne Zeya, qui m'aide dans mes travaux quotidiens avec les animaux, les déplacements, tout ça, a fait ses petits. Donc on en a gardé 2, un mâle et une femelle. Et je vais en garder un pour le dresser en chien de troupeau. Voilà, donc j'avais déjà dressé Zeya, qui est très gentille et assez bien dressée, mais j'ai loupé les ordres à distance dans son dressage, et ça, il faut absolument que j'essaie de faire mieux avec ce petit chiot. Donc ce petit chiot sera prénommé Lopi. Voilà pour le segment à la ferme. Lecture. Alors, ce mois-ci, je voulais vous présenter 2 livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimés. 2 livres tout à fait différents. Donc, je vais commencer le premier par un livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a bouleversée. Alors, voilà le résumé. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge, où rire et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires se révèlent lumineuses. Alors ça, c'est un livre, je crois que c'est le 2e livre de cet auteur, et je trouve que, en fait, au premier abord, j'étais un peu sceptique, disons, et puis finalement j'ai trouvé ce livre très, très juste et très fort. Je trouve que c'est assez fluide, c'est très poétique, il y a du rythme. J'ai eu un petit peu de mal à le lâcher certains soirs, Et il y a de la poésie, de la musique, du suspense. Il y a beaucoup de vie, d'histoire de vie, et en même temps, ça raconte les morts. Et en fait, malgré que ce soit une gare de cimetière, on pourrait penser que c'est triste. Et alors, il y a des moments extrêmement tristes, extrêmement bouleversants, mais c'est plein de vie, de pépites de vie, de tendresse. C'est vraiment, voilà, ça parle de la mort, du vieillissement, de la solitude, de la mémoire du temps qui passe, et des drames aussi de la vie. Et pourtant, quand on ferme le livre, c'est vraiment très agréable. Donc, si ce genre de livre vous plaît, je vous le recommande vivement. C'est avec des personnages un peu cabossés par la vie, mais très attachants, très contrastés. Il y a des personnages qui sont très antipathiques au début de l'histoire, et puis au fur et à mesure du récit, des rebondissements, ça change. Enfin, c'est vraiment un livre très riche. Et ça a été vraiment voilà, on rit et on pleure à la fois. J'ai vraiment, vraiment ri et j'ai vraiment pleuré. Enfin, c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu. Donc, je vous le conseille. L'autre livre dont je voulais vous parler et que j'ai adoré, c'est le premier tome d'une série de livres de Jean Howell, je crois. Donc c'est un livre qui est paru avant ma naissance et il est paru en 1980. Donc c'est un livre assez qui date un peu. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire et puis je m'étais jamais vraiment arrêtée dessus et j'avais jamais vraiment pris le temps de le faire. Mais donc ce mois-ci, j'ai lu le premier tome. Donc de la série Les Enfants de la Terre, du livre Les Enfants de la Terre, et le premier tome s'appelle Le Clan de la Caverne de l'Ours. Alors je vais vous lire un petit peu, enfin je vais vous faire un petit peu un résumé. Donc l'histoire commence lorsqu'une fillette de 5 ans se retrouve soudain orpheline et sans abri à la suite d'un tremblement de terre qui a détruit le campement de sa famille. Nue et incapable de se nourrir, elle erre pendant plusieurs jours sans savoir où elle va, jusqu'au moment où, après avoir été attaquée et grièvement blessée par un lion des cavernes, mourant de faim, d'épuisement et de ses plaies qui s'infecte, elle s'effondre presque morte. Et à ce moment-là, elle est trouvée par une guérisseuse, Isa, qui demande au chef du clan Brun la permission de sauver la petite. Donc voilà le résumé et comment commence l'histoire. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de personnages et c'est un livre donc qui se passe à la préhistoire, il y a 35 000 ans, et ça décrit, ça raconte un petit peu l'évolution de l'homme qui est sorti peu à peu de l'état de bête et qui se transforme, disons, en homme. Qui maîtrise l'outil, le feu, qui fait des vêtements, qui fabrique des armes pour chasser, qui aménage des grottes. C'est vraiment un livre très complet pour moi et je trouve que... Alors j'avais pas lu de critique ou voilà, je m'étais renseignée sur le résumé de l'histoire et c'était un livre qui me plaisait de par justement son thème sur la préhistoire et sur une vie un petit peu primitive. Donc après avoir lu ce premier tome, j'ai lu plusieurs critiques et donc dans l'introduction, les premières pages du livre, il est dit que l'auteur, Jean Howell, ne fait pas d'erreur, sur l'histoire elle-même. Elle est spécialisée un petit peu dans la préhistoire. Je pense que les faits sont vrais, les faits historiques et du moins ce qu'on sait aujourd'hui sont vrais. Je pense qu'il y a un petit peu de liberté quant aux dates parce que on voit qu'ils maîtrisent le feu, les pierres à feu, les propulseurs dans une période assez courte enfin, j'ai lu que ça avait pris beaucoup plus de temps. Alors, donc, ce livre m'a vraiment énormément plu parce que ça nous ramène à des vies très intéressantes et ça nous ramène un petit peu à nos origines. J'ai été, disons, assez surprise par la qualité des descriptions, notamment des descriptions des paysages, de la flore, de la faune, également du physique des personnages. Voilà, c'est passionnant. Elle décrit également les croyances, bon, certainement imaginaires, parce qu'on ne peut pas, enfin, on n'a pas de traces de ce genre de savoir en fait. Et elle détaille les modes de vie de manière très intéressante. Le travail en fait minutieux pour tailler les pierres, pour tresser des paniers. Enfin, c'est vraiment. Je trouve que j'étais pas vraiment intéressée par le thème de la préhistoire. Et je suis loin de connaître après avoir lu ce livre, évidemment, mais je trouve que c'est des descriptions très intéressantes et il y a en même temps un équilibre parfait justement entre ces moments de description et ces moments d'action. Et ça, c'est vraiment, je trouve que ça crée un rythme très dynamique et très entraînant. Donc les personnages sont très attachants. Donc on a le personnage de Ayla qui fait plutôt partie du clan des Homo sapiens. Et puis après on a les personnages du clan qui eux sont des hommes de Néandertal. Et donc on voit déjà la subtilité entre ces deux évolutions de l'homme. Donc ça c'est très intéressant. Donc la vie de groupe qui est présentée par l'auteur est vraiment riche et intéressante. Ils ont des croyances, des rites particuliers. Et il y a le thème de la spiritualité notamment qui est très très riche et présent dans ces sociétés-là. Et ça c'est très intéressant. Donc ça décrit un monde vraiment hors du temps et moi ça m'a beaucoup apaisé de suivre ce clan, de visiter un petit peu leurs cavernes, leurs habits, leurs tâches quotidiennes de chasse, de tressage, de tannage des peaux. Enfin c'est vraiment un retour aux sources et un retour de là où on vient qui je trouve ça, enfin, je suis admirative de ce savoir qui a été trouvé, recherché par ces gens et qui est là encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines, notamment le travail du textile, la vannerie. Enfin, donc, je trouve qu'il y a un petit peu une voix féministe dans ce livre, donc ça aussi c'est un choix de l'auteur que j'ai trouvé très intéressant de faire cette jeune femme Ayla, donc cette jeune fille, une femme forte qui suit un petit peu son libre arbitre qui veut rester libre et qui ne se soumet pas totalement aux règles du clan qui l'a recueilli. Et donc ça, je pense que c'est une volonté de l'auteur de faire s'effondrer les barrières qui séparent un petit peu la nature et l'humanité. Donc c'est vraiment un livre émouvant et bouleversant et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, toutes ces descriptions très détaillées sur la vie quotidienne, les savoirs quand ils vont récolter des plantes médicinales, comment ils les testent. l'utilisation des pierres à feu, d'un propulseur. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et ça m'a amené à faire d'autres recherches sur la préhistoire, sur les outils, sur l'évolution de l'homme à ce stade. Donc c'est vraiment, je vous le conseille vraiment. En tout cas, moi j'ai été passionnée par ce premier tome et j'ai déjà commencé le second qui s'appelle La Vallée des Chevaux, le clan de la Vallée des Chevaux, je crois. Et voilà, et en tout cas, ça fait beaucoup de bien dans une vie un petit peu où on oublie le temps et où chaque chose est un petit peu faite dans la vitesse, la précipitation. Moi, ça m'a beaucoup posé et ça m'a beaucoup apporté de sérénité finalement. Et j'apporte une autre valeur maintenant à ce que je fais de mes mains et à ce que je construis, même si c'est pas parfait. Parce que voilà, c'est important de faire. Je trouve que ça développe plein de choses de l'esprit et du manuel. Donc voilà, ce livre m'a amené à faire plein de choses. Enfin, c'est vraiment, vraiment très intéressant. L'atelier Fibrelaine. Alors, ce mois-ci, j'ai pas mal travaillé justement dans mon nouvel atelier parce que je participe à un festival les 14 et 15 juillet, ça s'appelle les Estivales de la Laine. Et donc pour ce festival, j'ai fait un fil spécial et donc là je le teins. Et donc le 7 juin, j'ai fait la première teinture dans mon nouvel atelier. Et j'ai teint 33 échevaux de Caprinae, ce qui est pas mal parce que j'ai été plutôt bloquée sur 12 maximum dans ma petite cuisine avec mes petites casseroles. Donc là, ça a été assez efficace et je suis très contente du rendu. J'ai fait des coloris un peu semi-solides. Ça, c'est nouveau pour moi. Moi, j'aime beaucoup les teintes très unies, très, enfin voilà, sans trop de variations. Et là, j'ai voulu essayer de nouvelles choses et proposer à mes clients de nouvelles laines. Donc, j'ai fait des teintures semi-solides et des teintures variées. Donc, ça, c'était très, très intéressant. Ce qui s'est passé également, c'est que j'ai reçu des crochets en pâte polymère que j'avais commandé chez Pedros Plaques. Je vous mettrai les liens dans les notes. Et oh là là, ils sont magnifiques. J'en ai commandé un avec bleu, avec des fleurs jaunes, vertes. Et il est très très joli, en 3 mm. Et j'en ai commandé un autre en 4 mm avec des abeilles. Et celui-là, il me tient à cœur parce que c'est un sujet qui me préoccupe en ce moment, le sort un petit peu des abeilles. Et voilà, on a des amis apiculteurs. Enfin, vous devez en entendre parler aux actualités, mais on a des amis apiculteurs qui ont des gros soucis avec leurs ruches, qui ont eu beaucoup de pertes. Et voilà, c'est un sujet qui m'inquiète et ce petit crochet, ça me fait plaisir. Et alors, au niveau du tricot, je suis très contente parce que j'ai fait une grande étole à la machine à tricoter en laine Caprinae. Avec un point un peu spécial qui rend très joli. Et le nom pour cette étole qui m'est venue en la faisant, c'est l'étole l'attrape-cœur. Donc ça, je l'ai fait Et elle est au séchage là d'ailleurs. Je l'ai fait il y a quelques temps et il faut que je la bloque, que je rentre les fils. Et je l'ai fait comme échantillon, comme modèle, exemple pour justement le festival de la laine. Donc ça, c'est un petit peu une nouveauté parce que je sais utiliser les machines à tricoter, mais de manière assez basique. Voilà, je peux faire un pull, un gilet, des chaussettes, mais et donc là, j'ai utilisé un point. Alors, pas vraiment dentelle, je sais pas comment on dit en français, mais c'est tuck stitch. Et en fait, ça rend super bien. Donc, je l'ai tricoté un peu déjaugé, je l'ai tricoté très lâche. Et ça fait une étole très ouverte avec un point vraiment superbe. Donc, ça, je suis contente d'avoir fini ce projet et que ça ait marché à ce point-là. J'ai aussi fait un petit col pour ma petite fille pour cet hiver au crochet avec un point très simple mais qui rend très joli, qui fait un peu légèrement tissé, je dirais. C'est le point de granité. Alors j'ai été voir l'explication sur le site de Drops. Qui a des tutoriels en fait où vous pouvez voir comment on fait certains points et donc j'ai suivi ce tutoriel. Voilà, j'ai monté je crois 100 mailles avec un crochet 3,75 donc en laine Caprinae et puis j'ai donc je l'ai tricoté en enfin pardon je l'ai crocheté en rond. Et donc j'ai monté, monté, monté jusqu'à ce que ça fasse une hauteur assez suffisante pour tenir chaud sans faire trop m'énerve. Donc ça, c'est un autre projet. Et juste après ça, j'ai commencé, je suis en train de le faire. Bon, je voulais le finir pour les estivales, mais c'est peu probable que j'y arrive. Un châle toujours au crochet avec un fil caprinae et un fil céleste mélangé en fait. Et je fais un petit châle en forme de croissant de lune avec ces deux fils. Donc voilà, donc je suis plutôt au crochet en ce moment et puis à la machine à tricoter. Et j'ai regardé quelques modèles dans mes livres pour faire un petit gilet tout simple au tricot avec Caprinae. Voilà pour l'atelier fibre laine pour ce mois-ci. Curiosité. Alors, dans ce segment, ce mois-ci, je voulais parler d'un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est le savon et notamment le savon réalisé par la méthode de saponification à froid. Alors, je vais vous raconter comment je suis arrivée là. Je faisais des recherches pour un article pour mon blog. Sur le mouton et toutes les richesses du mouton. Donc j'avais été voir pour la viande, le lait, la laine, le cuir et il y a un autre produit dérivé du mouton, c'est la lanoline. Et en me renseignant sur ce produit, la lanoline, comment la récupérer, enfin voilà. Je suis tombée, je crois, petit à petit sur des sites de cosmétiques et notamment de saponification à froid. Alors j'en avais déjà fait avec ma soeur il y a quelques temps. On s'était associés pour acheter un petit peu du matériel en commun. Et il me restait donc des huiles et des beurres de ce temps-là qui n'avaient pas bougé. Et donc j'ai décidé de refaire un savon. Donc à l'époque, on avait acheté un livre aux éditions Terre Vivante de Léane et Sylvain Chevalier qui s'appelle « Je crée mes savons au naturel, l'art de la savonnerie à froid ». Donc si vous êtes intéressé par le sujet, c'est vraiment un livre que je vous recommande parce qu'il y a une première partie donc, qui explique et après elle vous livre 12 recettes je crois de savon. Et c'est un livre très 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 intéressant, j'aime beaucoup le point de vue de Léane, la savonnière, sur ce domaine et j'aime beaucoup sa sensibilité. Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps un petit peu ce qu'est le savon et la saponification à froid. Et après, je vous parlerai de mes expériences. Donc, le savon, c'est le produit de la saponification. Donc, la saponification, c'est une réaction chimique entre un acide gras, donc une huile ou une graisse, un beurre, et une solution de soude caustique ou de potasse dissoute dans l'eau. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la base. Donc, la réaction chimique va dégager de la chaleur. Et cette réaction combinée au mixage de l'acide et de la base, ça va faire une émulsion et c'est ça qui va donner du savon et de la glycérine. Donc si je résume, acide gras plus soude caustique, ça fait savon plus glycérine. Voilà, c'est une réaction chimique simple. Alors, un peu d'histoire. Je vais vous lire la partie du livre qui raconte l'histoire et vous allez noter une référence à la laine qui est incroyable. Tous les chemins mènent à la laine, j'ai l'impression. Alors, par un beau soir d'été, à l'abri d'une caverne, ah c'est drôle, on revient aussi à notre petit segment lecture avec l'ours des cavernes. Je reprends. Par un beau soir d'été, à l'abri d'une caverne, un chasseur préhistorique fait griller sa dernière prise sur une belle flambée. Le gras de l'animal fond et se mêle en grésillant aux cendres encore brûlantes. Soudain, l'orage éclate et la pluie ruisselle gentiment jusqu'aux cendres, qui sont riches en potasse. Tous les ingrédients sont réunis pour que le savon surgisse du néant. Historiquement, en fait, la plus ancienne trace de l'utilisation du savon remonte à quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Et en fait, il s'agit de tablettes écrites en sumérien. Donc, c'était la langue parlée en Mésopotamie, l'actuel Irak. Et en fait, il semblerait que le savon était alors utilisé pour préparer la laine avant teinture. Vous voyez, c'est fou. Donc les Romains en font une grande consommation pour leur chevelure. Les Gaulois l'utilisent également dans les tanneries et pour la lessive. Et jusqu'à cette époque-là, la fabrication du savon employait donc des graisses animales principalement et de la cendre de bois. Les premières traces d'huile d'olive dans l'histoire du savon en France apparaissent au 15e siècle. Après, au fil des siècles, on a fait des expériences notamment avec des huiles de poisson, des huiles tropicales qui se sont développées un petit peu avec l'esclavage qui ramène des esclaves au 17e siècle. Donc en 1791, Nicolas Leblanc inaugure la chimie moderne en élaborant à partir de celle de cuisine de la soude caustique qui facilite donc la production de savon. Et c'est en 1823 que Eugène Chevreul élabore la théorie de la saponification et c'est à partir de ce moment-là que la savonnerie moderne est née. Alors, les différents procédés de fabrication. Donc, avant l'avènement de la savonnerie industrielle, le savon a toujours été fabriqué à partir de corps gras et de potasse. Donc ce procédé est toujours employé dans les pays du tiers-monde, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme. Il y a notamment la méthode marseillaise qui passe par une longue cuisson des ingrédients, la soude est dissoute dans l'eau et puis incorporée aux matières grasses. L'émulsion qui en résulte est chauffée pendant de longues heures jusqu'à un point d'équilibre qui permet l'obtention de la pâte à savon. Donc du sel est ensuite ajouté à la pâte pour éliminer l'excès de soude et la glycérine encore contenue dans l'émulsion. Puis ce savon est lavé pour évacuer le sel. Et enfin, la pâte est déversée dans de grands moules ou à même le sol, puis mise à sécher. Donc la méthode de saponification dite à froid pour la fabrication maison est déjà connue au XVIIe siècle. Et elle connaît un essor important au XIXe siècle, notamment au sein des communautés de pionniers durant la conquête de l'Ouest. Donc aujourd'hui, c'est un procédé très précis avec des ingrédients de base qui sont pesés au gramme près. Donc le grand avantage de cette méthode de saponification à froid, c'est que l'action de remuer, d'émulsionner les graisses, les huiles et la base commence la réaction chimique en fait. Et c'est cette réaction chimique qui va créer de la chaleur, qui va permettre la saponification dans le moule. Donc c'est une méthode vraiment, disons, artisanale. On ne peut pas la reproduire de manière industrielle. Donc voilà un petit peu l'histoire et le procédé de la saponification à froid. Alors, les avantages du savon à froid, donc c'est que toute la glycérine issue de la saponification est conservée. Et c'est elle qui va permettre d'avoir un pouvoir hydratant au savon. Il n'y a pas de cuisson, ce qui veut dire que même si la réaction chimique dégage de la chaleur, c'est une chaleur qui reste assez douce et qui préserve toutes les propriétés, notamment des matières grasses et des huiles essentielles quand vous en mettez pour leurs propriétés olfactives ou pour la peau. Le coût de fabrication est assez faible parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel nécessaire et que toutes les matières premières peuvent être trouvées très localement, notamment l'huile d'olive et ses produits en France, l'huile de tournesol, vous avez de l'huile d'avocat, enfin voilà, c'est des matières premières accessibles. Et l'impact sur l'environnement est quasi nul si vous utilisez peu d'emballage, si vous réutilisez des serviettes en papier, en tissu, voilà. Et il y a très peu de consommation d'énergie et l'eau pour le lavage, vous pouvez faire un lavage de manière écologique pour préserver l'eau. Alors ce que j'aime aussi, et l'avantage je trouve du savon, c'est que les recettes sont infinies. Une fois que vous avez votre recette ou votre idée, vous prenez les huiles qui vous plaisent, dans les quantités qui vous plaisent, la fragrance ou les huiles essentielles qui vous plaisent, et vous pouvez faire un savon différent à chaque fois. Et c'est, je trouve, une méthode très, très ludique et très accessible. Donc voilà pour la saponification à froid. Alors moi j'ai fait un premier savon assez simple parce qu'il me restait juste de l'huile de coco et j'ai pris de l'huile d'avocat, mon huile d'avocat que je me mets sur le visage, enfin voilà, j'utilise pas de cosmétiques à part cette huile. Quand j'ai la peau un peu sèche sur le visage et le corps, une huile d'avocat biologique et commerce équitable. Donc j'ai fait un savon comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis Je crois que j'ai pas mis d'huile essentielle parce que je voulais que la belette s'en serve. Et voilà. Donc dans l'idée, en fait, je voulais utiliser. Alors, je voulais. On a tondu donc au mois de mai, je crois. Et donc j'ai deux curons de laine dans la chèvrerie qui attendent. Et l'idée, c'était de laver cette laine dans une grande bassine et faire chauffer, laisser refroidir le tout et récupérer en surface donc la lanoline pour faire un savon. Je n'ai pas eu le temps de faire ça, mais j'ai quand même fait un savon. Et j'ai appris aussi, donc dans le livre que je vous cite, Je crée mes savons naturels, j'ai appris qu'on pouvait utiliser de la graisse animale donc pour faire des savons. Et on avait, il y a 2 ans, on avait des cochons et donc j'ai 2 gros pots de saindoux et donc je vais essayer de faire un savon avec ça. Voilà. Et l'autre idée aussi, donc toujours, toujours dans l'idée d'utiliser les produits de la ferme et de valoriser au maximum toutes les richesses du mouton, je voulais traire une de mes brebis pour récupérer un peu de lait, voilà, 200-250 grammes de lait pour faire un savon également. Donc voilà les projets. Les projets qui ne manquent pas. Donc je pense que je vais attendre un petit peu l'automne parce que là, donc on a les foins, il y a bientôt les moissons qui arrivent. Voilà, j'ai pas trop le temps. Mais j'ai quand même réussi à faire un savon. Donc avant de faire le savon, oui c'est ça. J'ai pas trouvé de moule dans ma maison adéquate pour faire, bien que je vienne de retrouver une caisse à vin et je vais l'utiliser. Donc j'ai construit des moules à savon dans une ancienne planche en sapin, je crois. Et donc j'ai construit 2 moules comme ça. Et donc je suis très contente parce qu'ils sont très pratiques, ça marche super. Donc le premier savon que j'ai fait, c'était un savon, disons, de base. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. J'ai utilisé mon huile d'avocat. Et oui, j'ai pas mis d'huile essentielle. Donc j'ai fait pour 2 kg d'huile. Donc c'est à peine rentré dans mon moule à savon, j'ai dû utiliser des petits moules à madeleine, non pas à madeleine, enfin des petits moules à gâteau en silicone que j'avais. Et donc ils seront, on pourra s'en servir dans un mois, donc mi-juillet. Donc voilà, j'ai hâte de traire une brebis pour utiliser son lait. J'ai hâte de récolter un petit peu de l'aquilée pour faire des jolies fleurs ou des fleurs de soucis. Enfin voilà, j'ai plein de projets et j'espère les mener à bien au moins cet automne. Donc j'ai fait un article sur mon blog où j'explique un petit peu ma première recette de savon et vous pourrez trouver plein de liens dans cet article très intéressant sur le savon. Donc je voulais vous parler d'un site qui m'a beaucoup plu et que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est en anglais. Ça s'appelle The Nerdy Farm Wife et elle a écrit un livre qui s'appelle Natural Soap Making et elle est je la trouve très très intéressante parce que elle utilise vraiment des produits, des huiles notamment très simples, pas forcément très exotiques, comme du beurre de mangue, ou enfin bref. Et ces savons sont très très jolis. Donc je vous mettrai le site en lien. Donc elle a un blog, elle a également 3 livres, notamment Natural Soap Making, sur les shampoings également, et sur les savons à base de lait. Donc ça, c'est très intéressant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie. J'essaierai de vous en proposer d'autres. Alors le voilà, excusez-moi, je retrouve son livre, le titre de son livre, donc c'est en anglais, mais c'est un des livres anglais où elle remet tout en grammes et en grammes et en pourcentage. Donc ça, c'est bien parce que j'ai acheté d'autres livres, notamment de Anne-Marie Fayola. Donc c'est un livre en anglais et tout est en... comment on dit, pound, non je sais plus, et en once. Donc c'est un peu difficile de faire la, comment, la conversion. Donc voilà. Donc voilà pour ce mois de juin 2018. J'espère vous avoir inspiré dans vos lectures, vos projets tricot ou crochet. Et j'espère que vous essaierez peut-être de faire des savons. Voilà, donc je vous souhaite un agréable mois de juillet. Et puis, on se retrouve dans un mois. Et surtout, restez curieux !